Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de pieuvre.ca. Si vous aimez nos épisodes de podcast, si vous aimez ce qu'on publie sur notre site, je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre page Patreon. Pour seulement 5 $ par mois, ça vous donne accès à une séance de questions-réponses. Ça vous donne également accès à des épisodes en primeur du balado Rembobinage. Et nous, avec votre contribution, ça nous permet de payer nos journalistes, nos pigistes. Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions. Et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, comment ça va?
Ça va bien Hugo, et toi?
Ça va bien, est-ce que tu es prêt à défendre la gloire de Rome?
Toujours!
évidemment, bienvenue à ce nouvel épisode bonus de Rembobinage. Donc d'abord, offert en primeur à nos abonnés sur Patreon, vous avez eu le petit laïus en début d'épisode. Si vous êtes abonné, comme toujours, un très gros merci pour votre confiance, votre appui. Si vous n'êtes pas abonné, on vous aime bien sûr quand même. Vous pouvez le faire, bien sûr, pour nous encourager ou, évidemment, vous avez accès à cet épisode-ci un mois après nos abonnés Patreon. Vous avez vu le titre de l'épisode, on déterre, je ne sais pas si déterrer est le bon terme, en tout cas, on fait revivre, voilà, un grand film, je pense, en tout cas, de la fin du, disons, tourné à la fin du 20e siècle, peut-être présenté au début du 21e. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
On a vu Gladiateur de Ridley Scott.
Effectivement, Gladiateur, à l'époque où Ridley Scott, je pense que j'avais mentionné dans un autre épisode récemment, à l'époque où Ridley Scott faisait encore de très bons films, il y a eu une passe évidemment avec les Aliens dont on ne parlera pas, mais voilà, mais
Ridley Scott. Il fait encore à l'occasion des bons films, je sais pas si tu as vu The Last Duel avec
j'avais aimé ça,
Matt Damon et Ben Affleck, c'était vraiment bon.
Oui, effectivement, je me souviens de ça, puis je me souviens que c'était quand même c'était un point de vue assez intéressant, la question de la place des femmes dans la société, surtout évidemment à l'époque médiévale, bien sûr. Ben oui, ça, c'était bon, mais là, il y a Napoléon qui s'en vient bientôt aussi. Donc, à voir effectivement si ça va être à la hauteur des attentes.
Oui, ben en plus, dans Napoléon, le rôle principal est joué par Joaquin Phoenix, qui joue aussi dans Gladiateur, fait que tout est relié.
Voilà, tout est dans tout, comme on dit assez souvent au podcast. Effectivement, Joaquin Phoenix, en fait, Gladiateur, moi je me souviens de l'avoir vu au cinéma. Est-ce que toi tu te souviens de l'avoir vu en salle?
Oui, absolument.
Et je me souviens d'avoir été jeté par terre par... Écoute, en 2000, j'avais à peu près, quoi, j'avais 14 ans. Je me souviens d'avoir... Tu sais, t'es un adolescent, un garçon adolescent, puis là, tu vois un film où il y a des batailles de soldats romains, il y a des batailles dans l'arène, puis là, c'est quasiment s'il y a des explosions, puis là, le sang, puis tout ça, puis tu dis, c'est bon d'être en vie, c'est bon.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment... un film de papa ou un film d'ado, comme tu dis. Oui. Il y a quelque chose de très masculin dans ce film-là. C'est ultra viril, presque macho. Il y a des sentiments, il y a des trucs un peu plus philosophiques, poétiques. Mais à la base, je pense, ce qui a fait que ça a été un aussi gros succès, c'est vraiment le côté... C'est un peu ironique parce que le film critique... la soif du sang du public romain, mais en même temps, le public du film en salle, on est un peu excité quand il y a les combats dans l'arène.
Oui, absolument. Puis je disais d'ailleurs que c'est une espèce de reprise ou de bon, tantôt je disais faire revivre. Ça a été un peu l'espèce de relance du genre du péplum qu'on voyait dans les années 60, Charlton Heston, entre autres, dans Spartacus. Je pense que c'est ça le titre du film. Non, c'était Ben-Hur.
Charlton Heston, il était dans Ben-Hur. Dans Spartacus, c'était Kirk Douglas, si je me souviens.
Ah oui, bon, écoute, tu étais plus spécialisé que moi là-dedans. Mais effectivement, il y avait une période dans les années 60 où c'était les films à grand déploiement comme ça, avec on ramenait à l'écran l'Antiquité. Et bon, évidemment, peut-être qu'un jour on fera un épisode sur Ben-Hur avec les fameuses erreurs de d'anachronie, c'est-à-dire, bon, quelqu'un qui a une montre, on voit un l'ombre d'un avion, je pense, à un moment donné, où on a les, quelqu'un porte des espadrilles dans une scène. Mais ça, évidemment, c'est assez fréquent au cinéma. Moi, je me souviens, dans Game of Thrones, à un moment donné, il y a une scène, vers la fin de la série, il y a une scène d'un conseil à Winterfell, et il y a une tasse à café sur la table. Et les personnes s'en est rendu compte, et donc ça a passé au montage. Et c'est passé en diffusion, donc, sur HBO. Et évidemment, les gens ont rapidement dit « Ah, ben, tu sais, ils buvaient du Starbucks à l'époque de Winterfell. » Gladiator, écoute, avant qu'on plonge vraiment dans le vif du sujet, puis je pense que ce sujet qui est très vif, comme on disait, c'est très masculin, très, quasiment, comme tu disais, quasiment macho, je vais nous faire un petit résumé, rapidement. Et je veux qu'on précise... qu'on écoutait la version étendue. Donc, on écoutait la version d'à peu près 3 heures du film, qui, je pense, est meilleure que l'original, mais on pourra en discuter dans quelques minutes. Gladiator, donc, le nom l'indique, c'est l'histoire, ben, en fait, comme le nom l'indique, c'est un personnage qui va devenir un gladiateur, mais à la base, c'est l'histoire de Maximus, qui est joué par Russell Crowe. Russell Crowe, qui était, je pense, au sommet de sa forme, à l'époque, là, donc en 2000. D'ailleurs, c'est drôle, moi, je l'ai vu récemment dans le film qui s'appelle L'exorciste du pape.
Oui.
Et c'est savoureux comme film parce que ça se prend pas au sérieux du tout. Mais Russell Crowe, qui est un Australien, qui joue un Italien, qui est un peu bedonnant, qui est un peu un prêtre en fin de carrière. Puis là, c'est une espèce d'à la fois de détective puis de prêtre exorciste qui est en Vespa. C'est savoureux. Mais bref, donc, en 2000, Russell Crowe, c'était le gars viril. Je pense que Master Commander est sorti l'année suivante, ça se peut-tu?
Quelques années plus tard, oui.
Donc, c'est ça, c'est à l'époque vraiment, film d'action Russell Crowe, le grand acteur de l'époque. Donc, Russell Crowe qui joue un général romain, qui s'appelle donc Maximus, qui, ça fait quelques années qu'il se bat en Allemagne, ou en tout cas à l'époque, ce qui était la Germanie. Évidemment, les frontières étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, bien entendu. Et donc, c'est ça, ça commence avec une victoire sur une tribu germaine, ou germanique plutôt. Et on apprend que, bon, l'empereur, qui est Marc Aurel, nom de famille, donc il m'échappe, là, va mourir bientôt. C'est un très vieil homme, va mourir bientôt et dit « Je veux pas que ce soit mon fils, qui est joué par Joaquin Phoenix, je veux pas que ce soit mon fils Commodus qui devienne empereur à ma place, qui normalement qui est une succession filiale comme ça. Je veux que ce soit toi, Maximus, qui non seulement prenne le pouvoir, mais ensuite retransforme l'Empire romain en république. Il y a plusieurs régimes politiques à Rome, bien sûr. Là, on fera pas l'histoire de Rome, ça serait un petit peu long. Et bref, et on apprend finalement que, bon, c'est ça, il y a un scandale, ou en tout cas surprise, Joaquin Phoenix, bon, on va le dire, divulgateur, ça fait 23 ans, Joaquin Phoenix tue son père, devient empereur, et là, Maximus, dont la femme et l'enfant ont été tués par les troupes romaines en signe de vengeance, a décidé lui-même de se venger de l'empereur et devient un gladiateur pour éventuellement aller à Rome et espérer donc tuer le personnage de Joaquin Phoenix. Est-ce que t'as... Ben, je pense que c'est assez évident comme réponse, on s'en est parlé un petit peu avant l'enregistrement, mais est-ce que t'as aimé Gladiator?
Oui, j'ai beaucoup aimé. Je l'avais adoré quand je l'ai vu en salle à l'époque, puis je pense que je l'ai encore plus aimé maintenant parce que, tu sais, j'ai quoi, 23 ans plus vieux, fait que
ouais.
J'ai encore apprécié le côté film d'action avec la violence, puis comme on disait, c'est très masculin, viril, tout ça, il y a quelque chose qui vient me chercher, mais en même temps, j'ai plus apprécié aujourd'hui tout le côté politique. Bon, c'est pas vraiment un film qui est super fidèle à l'histoire, là, selon ce que j'en comprends, mais dans le contexte d'une fiction, c'est très captivant, puis y a vraiment, c'est ça, il y a toute une des espèces de manigances au Sénat qui veulent, comme tu disais, créer une république, que ça soit plus l'empereur qui dirige tout, puis j'ai vraiment aimé ça cette fois-ci, en plus du côté film d'action, tout le côté plus dramatique.
Oui, ben moi aussi, je me rappelais évidemment très largement des films d'action, surtout la fameuse scène de la bataille au début du film, et on va en parler, là, qui selon moi même 23 ans plus tard demeure l'une des meilleures scènes de bataille de l'histoire. Là. Ben évidemment, d'autres contextes, mais dans le contexte de disons, cette ampleur-là, sans effets spéciaux vraiment sur fond vert et tout ça. Je pense que c'est vraiment l'une des meilleures scènes de bataille là, du cinéma. Mais c'est ça, tu sais, bon, je disais qu'on avait écouté l'édition longue, la version longue. Je l'avais écouté il y a quelques années et j'avais été surpris. J'avais un peu compris pourquoi il avait coupé les scènes supplémentaires, mais j'avais été surpris de constater à quel point, comme tu t'es un peu mentionné, ça amenait de la profondeur au film. Tu parlais du côté politique qui est très largement évacué dans le film original qui est présenté en salle. Est-ce que c'est parce qu'on jugeait que c'était pas intéressant? Est-ce que c'est parce qu'on disait 3 heures, c'est trop long? Tu sais, toi et moi, on a une tendance à dire, bon, 90 minutes de film, 30 minutes de podcast et notre journée est faite. On devrait se faire des tasses avec ça, un t-shirt.
Ouais.
Mais dans ce contexte-ci, puis bon, je sais que je me suis plaint, je pense, hier, pourquoi j'ai choisi un film de 3 heures. Moi qui avais choisi le film pour notre épisode aujourd'hui, et je disais pourquoi est-ce que j'ai choisi un film de 3 heures, et c'est pas parce que c'est plate, c'est parce que, bien évidemment, faut qu'on case cette écoute-là avec, bon, évidemment, moi je travaille à Radio-Canada, t'as un travail aussi, faut qu'on case ça quelque part dans la journée, et moi, ces temps-ci, je suis né à 22 heures au travail, donc faut que j'écoute le film soit le matin avant de partir travailler, soit tard, très tard le soir, donc je me couche tard, bref. Il y avait toute une histoire de, bon, brièvement regretté d'avoir choisi un film de 3 heures, mais dans le contexte, écoute, diverti du début à la fin, moi aussi, j'ai adoré ça. Et j'ai trouvé, je me souviens qu'à l'époque, je trouvais que les personnages de Joaquin Phoenix étaient plates, étaient juste méchants. Et j'ai trouvé que avec les scènes ajoutées, on donne plus de profondeur au personnage, pas assez à mon goût, mais je trouve ça plus intéressant de le voir comme ça plutôt que juste un gros méchant. Il y a comme une motivation derrière ça. Puis bon, évidemment, on a vu Boys Afraid il n'y a pas tellement longtemps, dans lequel Joaquin Phoenix tient un rôle fantastique. Encore une fois, c'est un film de 3 heures, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais donc, ça donne une nouvelle teinte au personnage. Donc voilà, je sais pas toi si ça a changé ta perception de
Joaquin Phoenix. C'est dur à dire parce que, comme je disais, moi, j'ai vu le film quand il est sorti en salle. Ouais. Et je pense que je l'ai revu en VHS peut-être une ou deux fois, mais genre dans l'année qui a suivi. Donc, ça fait au moins 20 ans que j'avais pas revu Gladiateur. Fait que je me souvenais évidemment des scènes marquantes, des lignes de dialogue qu'on n'a jamais oubliées, tout ça. Mais je m'en rappelais pas assez pour savoir exactement quelles scènes ont été ajoutées dans la version longue. Mais la révélation pour moi, comme je te dis, c'est peut-être à cause de la version longue. C'est que je me suis rendu compte, tu sais, à l'époque, je trouvais que c'était vraiment, ça me faisait penser évidemment à Braveheart, mm-hmm. qui était un film semi-récent, un peu épique, tout ça. Ça me faisait penser aussi beaucoup à Conan le Barbare, dont on a déjà parlé au podcast, parce que, tu sais, c'est un peu la même histoire, tu sais, dans Conan, sa famille se fait tuer, il devient un esclave, éventuellement, il devient même un gladiateur, puis c'est toute une quête de vengeance, fait qu'il y a... À l'époque, c'est vraiment c'était ça ma référence, mais aujourd'hui, bon, c'est pas une inspiration de Gladiateur parce que c'est venu après, mais j'étais surpris à quel point ça me faisait penser à Game of Thrones. Mm-hmm. Tu disais, tu parlais du verre de Starbucks, tout ça, plutôt de Game of Thrones. Tu sais, je pense que c'est une série que tous les deux on a vue puis qu'on a aimé. Moi, en tout cas, j'ai adoré cette série-là. Puis justement, j'écoutais le film hier, Gladiateur, puis j'étais comme, wow, OK, c'est comme si c'était le meilleur épisode de Game of Thrones. Il y a tout le côté politique, il y a une histoire de vengeance, il y a des trahisons sanglantes, il y a même un peu d'inceste, ou du moins des suggestions d'inceste. Mm-hmm. Tu sais, il manque juste les dragons, dans le fond.
Oui, absolument. Puis d'ailleurs, la fameuse scène, il faut qu'on explique, là, parce que, bon, comme on dit, ce personnage... est pas marié, il a pas de femme, il a pas d'enfant, mais sa sœur, elle a un enfant, et bon, ils sont un peu devenus une espèce de pas un couple, parce que clairement, sa sœur, ça, il tente pas, mais en même temps, sa sœur, je pense que c'est, outre la question des Lannister, tout ça, de leur incest dans Game of Thrones, je pense que c'est la question aussi des jeux de pouvoir qu'on mm-hmm. trouve là aussi, que la sœur de Commodus, qui s'appelle, dans le nom, j'ai oublié.
Lucilla, je crois.
Lucilla, voilà. Qui est jouée par Connie Nelson, donc une actrice danoise, voilà. elle sait que Commodus, c'est, elle, il a pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui. Et elle sait, quand il devient empereur, elle sait que son fils à elle, qui s'appelle Lucius, va devenir empereur à la mort de Commodus. Donc, il faut qu'elle protège son garçon. Et là, c'est... Mais en même temps, elle, elle veut aider à ramener la République, sauf qu'elle sait que si elle se fait... attraper un peu sur le fait, elle va se faire exécuter. Donc, ou son fils va se faire exécuter. Puis d'ailleurs, Mané Commodus, il dit, c'est ça, il dit, tu sais, si tu me trahis encore une fois, si tu bafoues encore ma confiance, je vais tuer ton fils. Donc, c'est vraiment cette question-là de pouvoir psychologique. Puis qu'on, là-dessus, on superpose, évidemment, les combats dans l'arène, dans le cirque, dans le Colisée, en fait, à Rome. D'ailleurs que, bon, ça, le Colisée est largement fait en effets spéciaux, même à l'époque, parce qu'on va pas construire un amphithéâtre de 50 000 places pour le film, c'est bien évident. Mais je pense qu'on peut peut-être sauter tout de suite, justement, dans les effets visuels, si tu veux, bien sûr.
Oui.
Oui, on a des effets spéciaux, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était encore l'époque où ça devait coûter une beurrée. Ça coûte encore très cher aujourd'hui, mais c'est aussi parce qu'il y en a partout, des effets spéciaux. Mais je pense qu'à l'époque, on voulait, on disait qu'on va filmer en vrai, en guillemets, on filmait avec des vrais acteurs, des cascadeurs, puis on va s'arranger pour que ça soit impressionnant avec des moyens relativement limités pour l'époque. Je trouvais ça bien parce que ça a l'air réel, plus que de, bon, les Avengers. Puis je m'excuse de taper tout le temps sur Marvel, puis c'est pas fait exprès, mais c'est parce que c'est ma référence de dire orgie d'effets spéciaux. Un film de super-héros, généralement, c'est une orgie d'effets spéciaux. Puis j'ai vu des tournages, bon, des photos de tournage, évidemment sans post-production, et que ce soit Marvel ou DC ou autre chose, les acteurs sont devant un fond vert, sur un plancher vert, puis des fois, il y a deux, trois petits trucs en relief vert. Donc, ils jouent dans rien, alors que certains que la bataille du début d'un gladiateur sont dans la forêt, ils sont dans une forêt. Ou en tout cas, ils sont sur un plateau extérieur où ils ont recréé une forêt. Donc, t'as l'impression d'être là, finalement.
C'est ça, dans Gladiateur, il y a quelques plans larges que... Quand on voit vraiment la Rome antique ou le Colisée, tout ça, évidemment, ils n'ont pas tout recréé. Fait que c'est par ordinateur qu'ils font ces vues d'ensemble-là. Mais c'est ça, quand on est avec les personnages, quand on est dans les combats, les batailles, tout ça, tout est vraiment réel. Il y a vraiment des centaines de figurants, des chevaux, plein de des armures, des armes. On sent le côté réel. Il y a quelque chose qui revient souvent dans le film, que Maximus, avant de se battre, souvent il prend de la terre par terre, il la frotte dans ses mains, puis fait qu'il y a vraiment ce côté-là tangible, que c'est pas il est pas dans, comme tu dis, dans entouré d'écran vert, puis il y a rien qui peut toucher là.
Oui, et puis bon, souvent, lui est couvert de sang ou de ses ennemis ou du sien. Tu sais, il finit la bataille, il est sale. Bataille du début, on peut en parler, c'est ça, contre une tribu en Germanie, qui est, encore une fois, que je disais, selon moi, une des meilleures batailles. T'as des lancers de projectiles, t'as une charge de cavalerie, t'as des batailles corps à corps dans la boue. Puis évidemment, c'est filmé en caméra, t'es des plans très, très serrés, très, très rapides pour donner l'impression que c'est encore plus intense que ce l'était. Et c'est ça, on finit ce soir. Lui, Maximus tombe de cheval. Probablement que c'est un cascadeur, effectivement. On va pas tuer des chevaux non plus, puis risquer de tuer des acteurs encore moins. Mais c'est ça, c'est qu'il finit la bataille, puis là, il est blessé, il est couvert de boue. Je pense que, d'ailleurs, dans une des scènes qui a été coupée au montage, dans la version originale, il va voir les blessés après. Puis là, t'as vraiment l'impression que c'est pas juste. Et oui, ils ont gagné, mais à quel prix? Puis là, t'as toujours un peu ce côté-là, t'es très, très dans les tripes tout au long du film. Puis effectivement, je pense que c'est un des gros plus de l'œuvre, rendu là.
Oui, absolument. Puis pendant qu'on parle de la bataille du début, tu sais, je mentionnais plutôt Braveheart. Fait que oui, c'est une référence, mais aussi le film Gladiator a été fait un an ou deux après Saving Private Ryan, puis dans le style visuel que Ridley Scott adopte, il y a vraiment un côté, tu sais, dans la fameuse séquence d'ouverture de Saving Private Ryan, c'était un peu comme si c'était un peu un reportage, il y avait comme un côté, comme si c'était tourné un peu documentaire avec la caméra qui shake beaucoup, de la terre ou du sang qui revole dans la caméra. Puis dans cette bataille-là, dans Gladiator aussi, il y a un peu cet effet-là. C'est pas juste filmé comme un film classique des années 60. C'est vraiment, la caméra est en plein dans l'action. Il y a des coupes rapides. Puis c'est ça, comme je disais, il y a des trucs qui revolent dans la caméra, puis ça shake beaucoup. Puis il y a vraiment quelque chose d'intense à regarder ça. On n'a pas l'impression de regarder un vieux film hollywoodien, que tu sais, très classique, très tourné avec une caméra qui bouge pas. Tu sais, on est vraiment, on a l'impression d'être sur place comme si c'était un reportage.
Oui, oui, puis bon, la charge de cavalerie avec Maximus en tête, t'as l'impression d'être à cheval avec lui, puis de descendre à travers les arbres, puis il y a des projectiles qui explosent, puis il y a des flèches en feu qui passent, puis là, c'est comme, c'est le bordel, la guerre, c'est pas propre. Surtout pas à cette époque-là, là, tu peux pas, oui, t'as des armes de gel, t'as des arcs, des catapultes, tout ça, mais le combat, c'est au corps à corps, avec ton glaive, puis c'est vraiment comme, t'es devant ton ennemi, il va te voir, tu vas le voir, puis c'est le premier qui rentre son épée dans l'autre. Là. On n'est pas... c'est bon, même Saving Private Ryan, c'était très sanglant, mais à la limite, les soldats débarquent des bateaux, des navires de transport, les soldats allemands sont pas sur la plage avec leurs épées en train de les attendre, ils sont en haut, dans les bunkers, avec les mitrailleuses, puis c'est quand même, c'est à distance, ça désensibilise, je veux pas dire que ça va être désensibilisé, mais là, c'est ça, là, on est vraiment, puis ça vaut aussi pour les batailles ensuite dans le Colisée, c'est souvent du un contre un, où, je pense que mener le personnage de Russell Crowe fait du bas contre plusieurs personnes, mais c'est jamais un contre cinq, par exemple. C'est toujours un contre un, puis ensuite, ah, je t'ai tué, donc je passe à l'autre, je le tue, je passe à l'autre. On n'a pas, genre, c'est pas un gros combat, une mêlée générale de outre la première bataille, là, généralement, c'est des combats très, très intimes, si on veut, même si ça se passe devant 50 000 personnes.
Oui, vraiment. Puis c'est ça, tous les combats de gladiateurs, tu sais, c'est le titre du film. Il y en a donc quand même beaucoup. Tu sais, c'est pas juste des discussions de politique, là. vous allez avoir droit à un vrai film d'action. Puis si vous voulez voir des gladiateurs se massacrer, il y en a en masse. Puis c'est ça, il y a quelque chose de très viscéral. C'est un film très violent quand même pour un film grand public. Il y a des têtes qui se font couper, des bras qui se font couper, le sang qui revole. Puis comme tu dis, c'est tout le temps souvent des combats corps à corps directement. Fait qu'il y a pas de distance là. On est vraiment puis encore là dans les combats de gladiateurs, il y a le côté la caméra est proche, est dans l'action. Puis c'est vraiment direct là, on a l'impression d'être avec Maximus puis d'essayer de survivre à tous ces attaquants là.
Il y a peut-être une scène, on disait bon mélange de vrais effets spéciaux par ordinateur, il y a une scène où je trouvais que c'était, tu sais, pour l'époque, c'était très 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 bien réussi. Il y a un combat avec des animaux sauvages, avec des tigres. Parce que, bon, ce qu'on comprend, c'est que l'empereur veut truquer les batailles pour que Maximus se fasse tuer. Parce que pour lui, Maximus est une menace, non seulement parce qu'il a essayé de... Il devait être empereur à sa place, mais parce qu'il a la faveur du public. On comprend qu'à un moment donné, bon, oui, il y a des vrais tigres qui sortent de vraies cages, mais qu'on comprend que le plan d'après, quand un tigre saute sur Maximus, par exemple, pour essayer de le griffer ou le mordre, c'est pas un vrai tigre. On va jamais mettre un tigre. T'sais, on va peut-être dresser un animal pour sauter sans danger sur un cascadeur, mais quand évidemment Maximus met son épée dans le tigre, c'est pas un vrai tigre. Ils ont pas tué un tigre pour évidemment. Pour le film. Évidemment. J'aimerais t'entendre peut-être sur la musique, parce que j'écoutais le film, puis après ça, j'ai compris pourquoi, évidemment, j'ai vu le nom du compositeur, mais j'arrêtais pas de penser à Pirates des Caraïbes.
Ouais, et, c'est vrai.
est-ce que tu veux un peu révéler la raison pour laquelle ça nous a fait penser?
Ben, c'est ça, c'est Hans Zimmer qui a fait la musique, qui me semble aussi, comme tu dis, il a fait aussi la musique des Pirates des Caraïbes, tout ça. Oui. Il y a un côté très épique, très enlevant, à grand déploiement. en même temps aussi, il y a des scènes où c'est plus l'émotion. Il y a comme une chanteuse qu'on entend sa voix régulièrement, quand Maximus pense à son fils, à sa femme, qu'il veut retrouver éventuellement dans l'au-delà, tout ça, il y a un côté un peu lyrique, mais aussi quand c'est vraiment le côté film d'aventure, ça marche au bout, comme tu dis, un peu Pirates des Caraïbes, la grosse musique en levante, là.
Ben, c'est surtout que je trouvais que le thème principal qu'on entend d'ailleurs dans la bataille en Allemagne ressemblait au thème principal de Pirates des Caraïbes. Il a juste un petit peu changé. Puis c'est, je veux dire, à la limite, je ne blâme pas Zimmer d'avoir recyclé un peu un thème musical. C'est correct. Ça c'était très approprié quand même. Et c'est pas aussi... Comme tu dis, c'est très, très épique. C'est moins aventure, comédie que, évidemment, Pirates des Caraïbes. On n'est pas, il n'y a pas Jack Sparrow qui fait des faces ici, là. On est vraiment plus dans le drame. Faisait penser un peu aussi à The Princess Bride, je trouvais, ce film-là, en disant, bon, t'as tué, je m'appelle Maximus, t'as tué ma femme et mon enfant, prépare-toi à mourir, là.
Ouais, ouais.
Mais bon, ça, c'est peut-être un peu plus niché comme référence. J'ai trouvé que c'était, j'aimerais ça évidemment avoir ton opinion là-dessus, je trouvais que c'était un film très années 90, puis je vais expliquer pourquoi. D'abord, bon, évidemment, sorti en 2000, forcément, il était tourné dans les années 90, mais je trouvais qu'il y avait certains aspects de la réalisation puis certaines structures narratives qui faisaient penser au film, justement, un film à grand déploiement des années 90, tu as mentionné Braveheart, il y a évidemment, tu disais aussi, Saving Private Ryan, mais c'était surtout, bon, beaucoup d'utilisation de ralenti, beaucoup de comment je pourrais dire, j'avais un feeling que c'était, c'est ça, tu sais, c'était l'époque où on pouvait faire des choses, tu sais, mettre beaucoup, beaucoup de moyens, je pensais à 1492 là, avec Depardieu. C'est ça le nom du film. Bref, il joue Christophe Colomb qui arrive en Amérique.
C'était pas réalisé par Ridley Scott aussi, ou je me trompe? Ou...
Écoute, là, tu m'en demandes. Okay. Tu me parles pas une bonne. Mais je sais que Vangelis fait la musique, là, mais je trouvais que c'était justement ça reprenait ces thèmes-là de grande aventure, grande découverte, avec cette musique-là qui est comme justement quasiment too much, quasiment trop intense. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a un peu perdu. Après, c'est sûr, tu vas me dire, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, mais Le Seigneur des Anneaux, ça a été tourné, les trois films en même temps, avant de sortir en 2002, je pense, ou
2001, 2002, 2003, me semble.
Mais c'est aussi un peu la fin de l'époque, un peu la fin de la période. Qu'est-ce que, toi, est-ce que tu as trouvé que c'était un peu, ça se faisait un peu années 90?
Oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, on a parlé quand même pas mal du style visuel, puis il y a un petit côté ça. La musique aussi, il y a un style de musique qui est peut-être un peu plus grandiloquent, qu'on retrouve peut-être un peu moins maintenant. En même temps, on n'a pas vu Napoléon encore. Je sais pas si le style que Ridley Scott va apporter à son Napoléon, dans le fond, on va faire « Ah, OK, ça ressemble à Gladiateur ou pas. Oui. » Là, on a juste vu une bande-annonce pour l'instant, là.
Je sais aussi que, ça j'avoue que je comprends pas trop, ils veulent faire Gladiateur 2.
Oui, j'ai lu un peu là-dessus, c'est intéressant, si tu veux que j'en parle un peu.
Oui, oui, bien sûr.
Parce que ça fait quand même longtemps qu'il y a des rumeurs que Ridley Scott veut faire une suite à Gladiateur, puis moi je me suis toujours dit, bon, encore là, ça fait 23 ans, divulgateur, il y a beaucoup de monde qui meurt à la fin de Gladiateur, donc... Oui. Donc, plusieurs personnages principaux qu'on ne pourra pas retrouver dans une éventuelle suite.
Oui.
Donc, je me disais, comment tu fais une suite à Gladiateur? Mais finalement, de ce que je comprends, dans le 2 qui ont commencé à tourner, qui est supposé sortir l'année prochaine, toujours réalisé par Ridley Scott, c'est l'histoire... c'est quoi? C'est Lucius, le fils...
Le fils de Lucilla, oui.
C'est ça,
le neveu de l'empereur, finalement.
L'enfant dans Gladiateur, qui avait peut-être, je sais pas, 10-12 ans. Maintenant, on le retrouve adulte, une trentaine d'années. Puis il est joué par Paul Mescal, qu'on avait vu dans After Sun, dont on a parlé au podcast.
Mm-hmm.
Il est un excellent acteur. Puis c'est ça, lui, il se trouve à jouer, puis ce personnage-là devenu adulte. Puis Connie Nelson, qui jouait sa mère... est aussi dans Gladiateur 2, puis il y a quelques autres acteurs, genre un de ceux qui joue un sénateur, puis je pense une couple d'autres acteurs comme ça qui vont revenir dans cette suite-là.
Ben écoute, je suis curieux parce qu'effectivement, l'histoire semble complète à la fin de Gladiateur 1. Écoute, je donne la chance au coureur. Moi, je pense que, en tout cas, Ridley Scott, j'espère qu'il est sorti, semble être sorti de son marasme. En tout cas, on le souhaite. mais pour le reste, écoute, c'est ça, évidemment, Napoléon qui va sortir prochainement. Moi, j'avais écouté, je suis vraiment en train de faire une grosse digression, mais j'avais écouté Waterloo, qui est un film des années 70, une co-production italo-soviétique. Tu sais, genre d'affaires que c'est impensable, mais qui ont été faites pareil. Et ils ont créé, pour faire la bataille de Waterloo, parce qu'évidemment, ça tourne autour de ça, ils ont créé un champ de bataille, ils ont créé les Flandres, en fait, parce que ça se passe en Belgique / Pays-Bas, en tout cas, dans cette zone-là. Et ils ont créé un champ de bataille, en faisant des tonnes de terre, ils ont mis des systèmes d'irrigation pour faire de la boue, ils ont construit des fermes, un peu comme ils ont pris le plan du champ de bataille, finalement, à l'époque, au début du 19e siècle. Et donc, ils ont tout recréé ça. Et il y avait des milliers de fantassins de l'armée soviétique qui sont allés jouer les figurants, les soldats, donc, français et anglais, pour refaire cette bataille-là. Si jamais tu as l'occasion, toi, ça t'intéresse aussi, ça dure, je pense, 3 heures.
Ouais.
C'est un film épique, là. C'est vraiment... et c'est très bien joué. J'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est ça, c'est un style qu'on voit plus aujourd'hui, bien sûr. Puis peut-être que nos auditeurs, c'est, évidemment, sont en manque de grandes batailles. Peuvent aller évidemment écouter Gladiateur, mais aussi je vais découvrir ce film-là, Waterloo, des années 70. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as moins aimé dans Gladiateur?
Je dirais que, encore là, c'est vu qu'on a écouté la version longue, il y a quand même si j'ai adoré le film, incluant cette version-là, puis il y a des petits moments où que je faisais « OK, c'est un peu long », je sais pas s'il avait, je me souviens pas assez si la version entre guillemets courte qui dure quand même, je pense, 2h30, si je ressentirais moins ces longueurs là. Mais hier soir, quand j'écoutais la version longue, il y a quand même des petits moments quand, tu sais, quand ça fait 10-15 minutes qu'il y a pas eu de combat, là j'étais comme, ok, c'est un peu long. Mais tu sais, faudrait que je revoie la version qui est sortie en salle pour vraiment dire est-ce que c'est la même chose ou pas là. Je pense que peut-être que ce problème-là disparaîtrait, là.
J'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu la version originale. Comme tu disais, elle dure 1h30 à peu près. Ici, ça dit...
2h30.
En fait, non. Oui, excuse-moi. Oui, 2h30, 1h30, 50. Trop collé.
Le fameux 90 minutes.
Le fameux 90 minutes. Donc, 155 minutes pour la version originale de Gladiateur. Moi, j'ai trouvé que... C'est drôle parce que j'ai jamais vu ça comme ça avant, parce que tu sais, on est adolescent, on dit oui, Maximus, c'est tu du monde, puis venge ta famille, puis c'est comme yes, c'est du c'est viril, puis en même temps, tu sais, puis effectivement il est masculin, mais il est jamais. Ça se passe dans la Rome antique, là, clairement il y a pas beaucoup d'égalité des sexes, mais il est jamais macho méchant-ish, il est pas, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec des personnages féminins, mais tu sais, il ne maltraite pas personne.
Non, c'est ça, c'est pas flesh and blood, là.
Je sais pas si non, non, dit. Non, une chance, mon Dieu. mais je vais trouver quand même que à la fois Maximus et Commodus, donc personnage de Russell Crowe et Joaquin Phoenix, sont un peu trop unidimensionnels pour leur propre bien. Puis je m'explique. Tu sais, on disait tantôt Game of Thrones, les manigances, tout ça. Le personnage de Lucilla, qui est vraiment, tu sais, non, elle va pas se battre dans l'arène, c'est sûr, mais il faut qu'elle protège sa famille. En même temps, elle a déjà été l'amoureuse de Maximus, donc elle a un sentiment pour lui, des sentiments pour lui. Elle a une envie de rétablir la République romaine, tout ça. Donc, il y a tout un espèce de conflit intérieur dans ce personnage-là, alors que Maximus, sa motivation, c'est « je veux tuer l'empereur parce qu'il a tué ma famille ». That's it. Même les questions de politique... Il dit, OK, bon, l'ancien empereur me l'avait demandé, mais lui, il a pas là. Lui, il dit, moi, je suis un homme simple, je suis un soldat, je vais aller chez nous, ça fait 2 ans, je suis pas allé chez nous, je veux faire la récolte des foins, je veux passer du temps avec ma famille. Il se dit, OK, c'est valable, mais on sent que tout le côté, toute la dimension supérieure, toute la question politique, sociale, ça ne l'intéresse pas. C'est pas quelqu'un de très, tu sais, qui pense pas à ces affaires-là. Et je trouvais que l'empereur, un peu moins avec les seins ajoutés, mais je trouvais que l'empereur, c'était, ah, ben, les gens m'aiment pas, c'est pas gentil, je suis triste, je vais les tuer. Puis là, c'est, ah, ben, tu sais, on m'a menti, Maximus est pas mort, je vais m'en débarrasser. Il manquait un petit peu de j'aurais pris un peu plus de profondeur de personnage.
Ouais, je comprends, mais en même temps, je trouve que c'est ce qui fait un peu la beauté de ce genre de film-là. Quand tu regardes un film de vengeance, souvent, ce qui est aussi efficace, c'est que il y a un bon, il y a un méchant, puis tu veux que le bon se venge du méchant, puis il y a pas, il peut avoir des nuances, tout ça, mais il y a un côté très intense que à la fin, inévitablement, en général, quand le bon tue le méchant, t'es content. Fait que tu sais, c'est sûr que ça aurait pu être plus complexe puis avoir plus de doutes et de remises en question, mais non, c'est quand même assez pas mal ça du début à la fin, ça, t'as raison là-dessus. Oui.
Mais ça reste très efficace, ça reste un très bon film d'action, avec des très beaux décors, c'est bien fait, c'est bien tourné, c'est bien joué, la musique est excellente. Je suis pas du tout en train de dire, écoutez pas Gladiator, au contraire, j'écoutais ça, puis j'étais comme, yeah! Il y avait vraiment, c'est un très, très bon film. Mais c'est ça, c'est sûr que, bon, au podcast, on a vu des films qui étaient plus, je veux dire, torturés, on peut peut-être utiliser cet adjectif-là. Mais là, dans ce cas-ci, on est dans un autre genre de divertissement. On nous demande moins de réfléchir, on nous demande plus d'apprécier, je pense.
Oui, c'est sûr. Ça reste un film hollywoodien, ça reste un film... comme je disais plus tôt, c'est quand même grand public. Puis d'ailleurs, juste rapidement, c'est oui. quelque chose qui m'a surpris un peu quand j'ai revu le film hier, c'est que autant que quand je l'ai vu en 2000, je pense que c'était sorti en plein été, c'était vraiment un blockbuster, j'avais adoré ça, mais par la suite, l'année suivante, aux Oscars, tu sais, c'est un film qui a gagné, je pense, 5 Oscars, dont meilleur acteur pour Russell Crowe, meilleur film, tout ça. Fait que, on dirait que dans mon souvenir, depuis une vingtaine d'années, je me disais, ah, c'est un film qui a gagné meilleur film aux Oscars, donc ça doit être quand même un film un peu, tu sais, très sérieux, puis plus, tu sais, comme ce qu'on appelle un film à Oscar. Puis finalement, quand j'ai revu le film, j'ai fait, wow, OK, non, c'est vraiment un film d'action, là. Il y a vraiment, tu sais, oui, il y a de la politique, il y a blablabla d'autres choses, mais il y a un côté très, très brut, très intense, là, tu sais. C'est pas, c'est un super bon divertissement, là. Comme dirait Maximus, are you not entertained?
Oui, voilà, la fameuse phrase. Qui est resté avec nous. Tu parlais de lignes de dialogue qui ont pas, qui sont pas disparues de l'espace public, si on veut, depuis 20 ans. Ça, le fameux Are You Not Entertained, ça reste vraiment un classique. Ben, écoute, la question du film, tu sais, du blockbuster qui vient chercher les gens, qui vient, tu sais, bon, gagne des Oscars pour meilleur film. Je veux pas trop. Je veux dire, j'ai pas la raison ou la réponse nécessairement à ça, mais je me dis, c'est peut-être que après les attentats du 11 septembre, peut-être qu'après ça, ça a comme forcé. Là, peut-être, je m'avance, là, vraiment, je fais une grosse hypothèse. Mais peut-être que ça a forcé justement une réflexion, puis de dire, OK, cette espèce de période où tout allait bien, et qu'on avait été, il n'y en avait pas de problème, qu'on était les États-Unis, puis que tout était beau, puis qu'on pouvait faire des films, des peplums avec des gars musclés qui se tapent dessus, puis ça allait, tu sais, il y avait, tout était parfait pour nous. Il y en a eu après les attentats, c'est sûr, mais peut-être que là, soudainement, c'est sorti en 2000, peut-être que l'année suivante, on a fait comme, oh, OK, non, on n'est pas dans une bulle isolée de tout le reste des problèmes. Les problèmes sont venus chez nous, là. Donc, peut-être que ça a forcé une réflexion puis de dire, bon, ben, le style de film a un peu changé. Écoute, j'ai pas de preuves tangibles pour dire que c'est le cas, mais j'ai l'impression que, je me dis, peut-être que t'es scénariste, puis là, soudainement, il se passe ça, ben, tu peux avoir deux options, c'est-à-dire, tu continues à faire des films de divertissement parce que tu veux que les gens se changent les idées, ou tu dis, OK, non, il y a une réflexion sociopolitique à avoir, peut-être, sur la vie en général, la vie en société. Puis dire, OK, on va en intégrer un petit peu plus dans les films, avoir une profondeur un peu plus importante. Regarde, c'est une hypothèse. Si vous n'êtes pas content, écrivez-nous dans les commentaires. Mais voilà, écoute, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais bon, c'est mon hypothèse.
Non, c'est intéressant ce que tu dis, puis c'est vrai que je ne sais pas si c'est à cause du 11 septembre, mais de plus en plus, on sent que même dans les films, les blockbusters, tout ça, on essaie d'incorporer un peu plus le monde réel, puis des vrais problèmes, puis il y a aussi toutes les questions diversité, inclusion, et il y a comme plein d'affaires qui vont au-delà de la formule qu'on essaie d'inclure pour offrir un peu un reflet de la société, puis ça, c'est très noble, mais des fois, quand on revient à l'efficacité d'un film qui assume, comme dans ce cas-là, un film qui assume sa masculinité, qui assume son côté les bons contre les méchants, tout ça, ça marche, là, tu sais, il y a quelque chose quand même qui fonctionne, là, tu sais, dans les dernières années, je pense que le meilleur exemple d'un blockbuster vraiment à l'ancienne, classique, c'est Top Gun Maverick, qui a d'ailleurs été un méga succès phénoménal au box-office, puis justement, tu sais, c'était un film vraiment que c'était comme, je pense que le public était content de retrouver ce genre de film-là, que tu sais, c'est une star de cinéma, Tom Cruise, puis qui c'est un vrai gars, c'est un héros, puis tout ça. Il y a pas tant, tu sais, il y a pas vraiment de message dans Top Gun Maverick, un peu comme, tu sais, c'est vraiment un film de papa,
ouais,
les messieurs vont écouter, que les petits gars vont écouter, puis tout le monde va triper, puis on n'est pas dans ceci est une réflexion sur les traumatismes et le deuil et l'après 11 septembre ou je sais pas trop quoi là.
Ouais. Ben je comprends tout à fait, puis ça fait du bien. J'écoutais Gladiateur, puis j'étais bien. Tu sais, c'est comme OK, je sais comment ça va finir. C'est pas trop compliqué. Il y a de l'action, encore une fois, c'est bien fait. Effectivement, j'avais pas de réflexion sur, tu sais, mon éco-anxiété était pas mal calme, pas mal minimisé. Tu sais, pendant que j'écoutais Gladiateur, c'est comme, non, regarde, changement climatique, la crise du logement, ça va faire. Laissez-moi voir Russell Crowe dans La Force de l'âge tuer des méchants. C'est juste ça que je demande pendant 3 heures. Puis après ça, on pourra être anxieux, on pourrait être fatigué, on pourrait être stressé. Mais pour l'instant, là, j'ai besoin d'une dose de divertissement. Écoute, dans ce cas-là, j'imagine, sans aucune surprise, on voit toi et moi fortement recommander Gladiateur.
Oui, absolument. Ma seule question, il aurait fallu que je voie les deux versions. Je sais pas si je recommanderais la version originale ou la version longue. Je pense que ça dépend. Peut-être si vous avez déjà vu le film puis vous êtes curieux de voir tout ce qui a été ajouté, c'est intéressant de voir la version longue, mais je pense que quelqu'un qui a jamais vu le film, ça serait peut-être mieux de commencer par la version originale, qui est plus courte, qui est plus efficace, selon mon souvenir. Donc, c'est ça, je dirais.
Oui, je vais terminer là-dessus. C'est drôle parce que tu mentionnais tantôt qu'il y a quelques longueurs, effectivement, dans la version longue, là, bien sûr. Mais je me disais, j'écoutais ça, puis je disais, hey, j'en prendrais plus, mais sous la forme d'une série télé, peut-être. Mais là, pour ça, je me suis rappelé que la série Rome existait. Et il y a toutes sortes de séries sur Netflix et ailleurs sur des histoires de médiévales ou de l'Antiquité, les Vikings, toutes sortes de choses, les Mongols. Donc, ils ont repris une formule qui fonctionnait et qui est en fait de transposer des problèmes sociopolitiques relativement contemporains puis mettre ça dans un contexte ancien ou en tout cas plus ancien que le nôtre. Est-ce que c'est l'influence de Gladiateur? Est-ce que c'est l'influence de Game of Thrones? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Je pourrais pas le dire, mais effectivement, il y a une espèce de retour en force en ligne là, sur les services de diffusion, en tout cas, certainement, pour avoir ce genre de divertissement-là, pour avoir ce genre de contenu-là. Donc voilà, donc très forte, effectivement, recommandation pour Gladiateur. Toi, tu m'as dit que tu l'avais trouvé sur iTunes, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça, j'ai fouillé un peu. Pour l'instant, il semble pas être sur aucune plateforme gratuitement avec l'abonnement, mais partout où qu'on peut louer le film, là, il est facilement trouvable. Moi, j'ai loué la version longue sur iTunes, Puis évidemment, moi, j'aime ça le rappeler. Il y a toujours moyen de trouver un DVD, un Blu-ray oui. ou même une VHS. T'sais, des fois, mm-hmm. Ça peut être le fun de trouver le format physique. Puis même si vous courez les marchés aux puces ou les trucs où il y a des trucs usagés, c'est le genre de trucs que je pense que vous allez trouver facilement, pas cher. Puis c'est un film qui vaut la peine d'ajouter à sa collection.
Là. Oui. D'ailleurs, j'aimerais juste terminer. Ça, je viens de voir ça à l'instant. J'ai regardé la distribution de Gladiateur. D'abord, bon, il semble-t-il qu'il est sur Paramount Plus, mais qui est abonné à Paramount Plus?
Ben, moi, je l'ai déjà été parce que je pense que je t'ai déjà parlé de la télé-réalité de Stallone et de sa, je pense aussi, sa série Talk Fucking. Oui, oui. C'était sur Paramount Plus, fait que j'étais abonné à l'époque, mais c'est quand même cher, là. Je pense que c'est 10$ par mois, fait que dès que les séries de Stallone ont arrêté, je me suis désabonné, là.
Mais bref, non, ce que je voulais dire, c'est qu'un des acteurs, celui qui fait Proximo, qui est le gestionnaire un peu de l'équipe de gladiateurs dans lequel se ramasse Russell Crowe, est mort même avant la fin de la sortie du film en salle, donc il est mort en 99.
Oui, donc, d'ailleurs, c'est vrai, il était mort vers la fin du tournage, puis mm-hmm. ils ont dû utiliser une espèce de doublure, genre j'imagine qu'on le voyait de dos ou tout ça, pour essayer de compléter le film, parce qu'il n'y avait pas fini de tourner ses scènes, là.
Ah, bon, ben voilà, ben, en fait, donc, M. Reed, donc, c'est ça, qui est décédé avant la sortie du film en salle. Donc, ça, voilà, Gladiateur, recommandation très, 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 très appuyée de la part de nous deux, Kevin et moi, bien sûr. Donc, merci, Kevin, d'avoir revisité l'époque des péplums et des biceps saillants avec moi.
Oui, merci à toi, c'était une excellente suggestion de film à couvrir.
Voilà. Pour les abonnés en primeur, pour les abonnés Patreon, en primeur, vous n'êtes pas des abonnés en primeur, vous êtes des abonnés, voilà, sur Patreon, ben écoutez, pour le prochain épisode, ça sera, bien sûr, en septembre, on n'a pas encore fait notre choix, et soyez assurés, évidemment, que ça sera un film, comme toujours, qui est disponible, ou qui est, évidemment, nous, on trouve intéressant, qui a eu un effet marquant, bon, sur le monde du cinéma. Pour les autres auditeurs, ben, on se retrouve très bientôt, donc on est déjà en septembre, évidemment, on se retrouve donc bientôt avec d'autres épisodes de Rembobinage. D'ici là, bien sûr, vous pouvez encore, et là, ça fait plusieurs fois que je le mentionne, mais c'est toujours un peu le supplice de la goutte. Donc, on est encore accessible sur Facebook si vous voulez vous abonner à la page du podcast. Autrement, on est toujours, ça va jamais s'arrêter, toujours accessible, bien entendu, via l'infolettre de pieuvre.ca. Ça vous permet d'éviter les algorithmes et les compagnies qui veulent contrôler ce que vous lisez en ligne. Donc, vous allez sur le site, vous vous abonnez, ça prend quelques secondes, il y a un formulaire à droite sur la page d'accueil et vous recevez tout ça gratuitement, donc tous les samedis matins. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.